Fantômas a réalisé beaucoup d'exploits. Hein. Il s'est fait passer pour le chef de la police secrète du Tsar. Il a dévalisé le casino de Monte-Carlo, réputé inviolable, etc., etc. Mais son plus grand exploit, en effet, c'est d'avoir séduit à la fois un public populaire et l'avant-garde de son temps. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il n'est pas fréquent que le goût du grand public coïncide avec le goût des élites réelles ou supposées. Fantomas, lui, l'a réussi. La liste est longue des écrivains qui ont été fascinés par Fantomas, et parmi eux, il y a les surréalistes, les écrivains surréalistes, et aussi Magritte. Voici le Magritte, le Fantomas à la rose. Alors c'est marrant parce qu'au départ, cette image, c'était une publicité pour des pilules pink. Pilule remplacée par une arme et ensuite l'arme remplacée par la rose. Retour de flamme, 1943. Mais Magritte a aussi représenté, du moins s'est servi du Fantômas en col en noir. Hein. Très beau. Alors, on peut se demander si. Dans le culte de Fantomas, quelle part revient au film de Feuillade et quelle part revient à la lecture même du texte? Il est évident pour certains écrivains qu'ils ont lu le texte de Sylvestre et Alain. Moi, je prendrai un exemple qui est celui d'Aragon. Quand je lis Les Voyageurs de l'Impérial et la partie qui s'appelle Monte-Carlo, je pense à la main coupée et les emprunts me semblent évidents. Pour éviter un éventuel chevauchement avec l'exposé précédent, quand j'ai vu le programme de la journée, je n'ai pas placé mon projecteur du côté des surréalistes en tant que tel, mais du côté du texte même de Sylvestre et Alain, en me demandant dans quelle mesure il pouvait être surréaliste et en me demandant pourquoi les surréalistes avaient pu aimer ça. Voilà la question que je me suis posée. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture de Sylvestre et Alain n'a rien de surréaliste. Alors, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Lacassin, c'est quand il fait un rapprochement entre l'écriture automatique surréaliste et la vitesse d'exécution de Sylvestre et Alain, un livre par mois. Certes, ils allaient vite, mais il ne suffit pas d'aller vite pour obtenir ce que Breton et Soupeau ont obtenu dans les champs magnétiques. Il suffit de lire une phrase des champs magnétiques et une phrase de Fantomas pour voir que vraiment les surréalistes n'ont pas aimé Fantomas à cause de l'écriture. Après les fleuves de lait trop habitués au vacarme des pêcheuses, des grelots de l'estuaire, sous des bandières déteintes et dans ses perles se nagent. Ça, c'est les champs magnétiques. Fantomas. Le dîner venait de s'achever. Et l'on passait au salon. C'est l'écriture du roman du 19e siècle. Cette écriture sur laquelle les surréalistes ont craché. Ils n'ont donc pas aimé Fantomas pour ça. Il faut beaucoup chercher dans Fantomas pour trouver de la poésie dans les mots. Peut-être, quand dans un café, des gens font la fête, un noceur lève son verre et il dit « À la santé du pôle Nord !» Là, oui. Une manière poétique de rendre hommage aux glaçons. À la santé du pôle Nord. Je dis ça maintenant. Ou alors Fandor qui donne comme titre à un article « On laisse toujours mourir les pendus ». Ce qui rappelle les proverbes reverdis des surréalistes. Mais c'est assez rare. Il faut donc chercher ailleurs. Moi, il me semble que le surréalisme dans Fantomas, il est dans des images de rêve. Alors, inutile d'insister sur le rêve chez les surréalistes. Dans le numéro de la Tour de Feu, évoqué tout à l'heure, Marcel Alain raconte qu'il était, ou qu'il est, au moment où il parle encore, un grand rêveur. Il raconte que chaque nuit, il est réveillé par l'intensité de son rêve, il allume une cigarette, se rendort et reprend le rêve là où il l'avait quitté. C'est du rêve feuilleton, en quelque sorte. Et assez souvent, dans le texte de Fantômas, les personnages se demandent s'ils n'ont pas rêvé, tellement ce qu'ils voient est étrange ou surprenant. Ce que l'on voyait dépassait tout ce qu'on avait pu prévoir, imaginer. C'était à croire qu'un rêve extraordinaire, un cauchemar abominable, hantait à la fois les cerveaux de toutes les personnes présentes. Et je pourrais faire beaucoup de citations de ce genre. Ou on peut faire appel à d'autres hypothèses. La drogue, m'aurait-on drogué? Ou la folie? Alors, j'ai choisi quelques images qui me semblent relever de cette esthétique du rêve et dont chacune, pour moi, pourrait être un tableau surréaliste de Magritte ou de quelqu'un d'autre. Dans un port, dans un décor de quai, de dock, de grue, arrive un cavalier style western. Un cheval s'est échappé du cirque Barzum, un autre roman. Il galope sur une voie ferrée et ses sabots font des étincelles sur les rails. On fréquente la troupe du cirque Barzum. Les surréalistes fréquentaient les artistes de cirque. Et il y a toutes sortes de géants, de nains, femmes à barbe, etc. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est l'homme caoutchouc, qui n'est pas un contorsionniste, hein, comme on pourrait le croire, mais quelqu'un qui, quand il se pince la joue, peut tirer sa peau sur 40 ou 50 cm. Bouzille, qui est l'un des hommes de main de Fantômas, qui vit un peu d'expédient, l'un de ses métiers est d'être noyé. Il se jette à l'eau, les sauveteurs le repêchent, touchent une prime, partagent la prime avec Bouzille. Fantômas s'est glissé à l'intérieur d'une statue. Il passe un bras enduit de plâtre à la place d'un bras de la statue. Une femme reçoit, envoyée par un inconnu, des roses noires qui fanent à la lumière et restent fraîches dans l'obscurité. En pleine nuit, dans la cour d'une auberge, arrive un cavalier. Le cavalier prend feu. On retrouvera le cheval mort, non le cavalier. Fandor est enfermé par Fantômas dans une grosse lanterne chinoise, comme s'il était enfermé dans une bulle de savon. On a vu tout à l'heure le génie de Fantômas pour construire des lieux d'enfermement. Pièce où on est dans le noir, du sable tombe du plafond, et le plafond et le plancher se rapprochent. Fantômas prélève la peau des mains d'un mort pour s'en faire des gants. Dans Le policier Fantômas, un chapitre est intitulé, ça c'est vraiment un titre d'un tableau surréaliste, Le mur qui saigne. Évidemment, un cadavre a été muré et quelqu'un vient bricoler un peu, enfonce un clou. Le mur saigne. Le détective américain Tom Bob scie les pieds de sa chaise pour se trouver au-dessous de la ligne de tir. Sur un champ de foire, un baraquement vous renseigne à la femme qui tue sans tuer. Là, on pourrait continuer longtemps, mais je voudrais regrouper deux familles d'images qui me semblent particulièrement significatives de Fantômas. celle qui concerne d'abord le corps humain découpé. Les surréalistes ont raffolé de ça. Les mannequins, les poupées désarticulées, Magritte, voilà. La femme introuvable de Magritte. Alors, dans La main coupée, par exemple, l'un des fantomas, l'image de la main coupée apparaît trois fois. Une main coupée posée à un aiguillage d'une voie de chemin de fer. Une main coupée posée dans le tiroir du directeur du casino de Monte-Carlo. Et une main coupée posée sur l'argent d'une table de jeu. Et aussi dans La main coupée, une page qui aurait pu figurer dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, le propriétaire de ses mains, qui a été amputé dans un hôpital après une morsure de serpent. Les mains ont été dérobées par Fantomas, évidemment. Et le propriétaire de ses mains vient les reconnaître. Il vient reconnaître les chairs petites. De la main coupée, faut passer à la tête coupée. Parce que c'est très étonnant de voir comment, dans cette période de peine de mort et de guillotine, il y a un fantasme de la décapitation. Le bourreau officiel, c'est Deblaire. Hein, et beaucoup d'amateurs veulent rivaliser avec Deblaire. Et la littérature populaire et le grand guignol, tout ça est plein de têtes coupées. C'est fou, dans la littérature populaire, les illustrations d'un homme tenant par les cheveux une tête. La tête coupée par Octave Mirbeau. Alors Fantomas, il lui arrive de couper la tête de sa victime. Il met du son par terre pour absorber le sang, mais le visage s'imprime dans le son, ce qui permet à Juve de faire comme le Lecoq de Gaboriau, de faire un moulage et d'obtenir un masque permettant d'identifier la victime. Et là, on passe de la tête coupée au masque, autre grand thème surréaliste. Dans Les amours d'un prince, une femme a rendez-vous avec son amant chez lui. Elle frappe, personne ne répond, ça l'étonne beaucoup. Elle regarde par une fente de la porte. Son amant est décapité et la tête est posée sur une chaise. La concierge qui vient voir affirme qu'elle a vu les paupières bouger. Main coupée, tête coupée. Deuxième famille d'images qui me semble très importante dans Fantomas, c'est tout ce qui touche à l'illusion, à la prestidigitation. Une boutique pourrait être l'emblème de tout cet univers. Dans Les amours d'un prince, le magasin Torf et Parent, qui a cette enseigne, instrument de prestidigitation, illusion, sortilège, magie, apparition, escamotage. C'est tout l'art de Fantomas, lui-même en tant que personnage, mais c'est aussi l'art de Souvestre et Alain, qui sont de grands escamoteurs, et de grands truqueurs et de grands illusionnistes. Dans ce monde, tout le monde se déguise, change d'identité, monde de faux cheveux, de faux ventres, de fausses barbes, on ne sait jamais qui est qui. Il y a même les chevaux qui ont des sosies que l'on fait courir à leur place pour truquer les courses. Le train du cirque Barsomme s'engage dans un tunnel. Juve l'attend à la sortie. Il ne se sort jamais. Le train a disparu dans le tunnel, comme une colombe disparaît dans un chapeau ou un lapin. Fantômas a des maisons truquées. Il a à Montmartre une maison. Par un escalier de 150 marches, on peut accéder au sous-sol parisien, mais l'entrée de cet escalier peut à volonté être visible ou invisible. La maison est truquée. Il arrive aussi que Fantômas utilise le trucage pour tuer. Et le cinéma reprendra ça abondamment. Hein. Dans une pièce de théâtre, on représente sur la scène l'exécution de Marie-Antoinette. Évidemment, le couperet est en carton et on joue sur une illusion d'optique pour voir la tête tomber. Fantômas remplace le couperet en carton par un vrai couperet. Et ce sera le dernier rôle de la comédienne. Alors, le cinéma a repris ça abondamment. Hein. Balle à blanc remplacée par la balle réelle, un tour de cirque qui finit mal avec une intention criminelle, etc., etc., etc. Donc, c'est un monde d'illusions, d'escamotage, de trucage. André Breton écrit son discours sur le peu de réalité de la réalité. L'illustration de ce que les surréalistes ont théorisé, c'est-à-dire cette réalité que les réalistes veulent reproduire, n'existe pas. Je crois que la meilleure illustration, c'est Fantômas. Il y a un deuxième point qui me semble surréaliste, mais qui mériterait un exposé à lui tout seul, c'est le pari de Fantômas. Les surréalistes bretons écrivent Nadja, Aragon, le paysan de Paris. Dans Fantômas, il y a un pari surréaliste. Un pari insolite, féerique, nocturne, forain, les puces, les bric-à-brac, etc. Mais là encore, il y a des lieux qui pourraient être considérés comme emblématiques. Je pense à la boutique de la mère Toulouche, brocanteuse, receleuse. Son magasin, c'est une espèce de cadavre exquis avec des objets. Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle a un truc pour faire signe à ses complices que la voie est libre et que la rousse n'est pas dans le coin. Elle met dehors, quand ils peuvent venir, un vieil habit d'académicien. Ça doit être un feu vert. Et puis, ce qui est aussi très net, c'est qu'avec Souvestre et Alain, on découvre le Paris qu'on ne voit pas dans la vie courante. Et là encore, le cinéma l'utilisera et en abusera. Le Paris des toits, sur les toits, et le Paris souterrain, cave, galerie, catacombe, etc. Alors, dans Fantômas se venge, il y a une scène qui fait la jonction entre les deux, puisque Fandor est sur les toits du palais de justice. Il descend par les cheminées, puis continue à descendre par toutes les voies verticales qu'il peut trouver, et il se retrouve dans les souterrains. Et cette fois-ci, à l'horizontale, il peut rejoindre les bords de la Seine. Alors, c'est un voyage à l'intérieur du décor de Paris, c'est le voyage à l'intérieur du décor, depuis les toits jusqu'au souterrain et pour retrouver la Seine. Voyage dans le creux de Paris, derrière les apparences de Paris. Et puis enfin, dernier point qui me semble surréaliste, c'est le côté anarchisant de Fantômas. Je dirais anarchisant. C'est pas un anarchiste, même s'il y a une très nette influence, à mon avis, de l'actualité anarchiste dans Fantômas. Fantômas ne veut pas changer la société. Par contre, il retourne contre elle les valeurs de la société. Il prend au mot tous les guizots qui nous ont dit « Enrichissez-vous ». Il retourne contre la société ses propres valeurs, la loi du plus fort et la légitime expansion du moi. C'est un provo, c'est véritablement un provo. Et même s'il ne veut pas changer la société, il y a des accents qui peuvent sembler anarchistes, et son fils Vladimir a reçu le message quand il déclare « Je n'ai pas de maître ». Nous lançons la société un avertissement solennel, qu'elle fasse attention à ses écarts, à chacun des faux pas de son esprit. Nous ne la raterons pas. Qui dit ça? Fantômas? Non, un tract surréaliste de 1925. Quand Fantômas dévalise la Banque de France, certes, c'est un vol, mais il est très important qu'il s'agisse de la Banque de France. Quand les surréalistes se déchaînent contre Anatole France au moment de sa mort, ce n'est pas seulement parce que c'est un écrivain qui représente ce qu'il n'aime pas, c'est aussi parce qu'il s'appelle France. Donc les surréalistes crachant sur le cadavre d'Anatole France et Fantômas dévalisant la Banque de France, même combat. D'ailleurs, en 1884, il y avait eu un procès de deux anarchistes, le Percher et le Courtier, et l'un des deux avait dit pendant son procès, sous forme de bravade, il faudrait dévaliser la Banque de France. Fantômas l'a fait. Fantômas aime ridiculiser le pouvoir politique, et un secrétaire d'État à la culture, c'est agréable à ridiculiser. Dans la Guêpe Rouge, le secrétaire d'État à la culture, lors d'un vernissage d'une exposition Rembrandt, est le seul à s'extasier devant un tableau, parce que c'est un faux. Fantômas est passé par là. Mais le plus grand plaisir, c'est que le secrétaire d'État à la culture n'a rien vu. Plus grave, il lance un défi au Parlement, au gouvernement, puisqu'il a enlevé le ministre de la Justice et demande une rançon. Là encore, ministre de la Justice. Il s'adresse à lui dans ces termes. J'estime que vous êtes un ministre de la Justice qui prend son rôle trop au sérieux. Je réprouve vos circulaires aux tribunaux ordonnant la sévérité. Et ce ministre de la Justice, il le tuera d'un coup d'aiguille dans le cœur, là encore. Plus grave encore que de tuer des ministres, il y a tuer des gendarmes et des policiers. Parce que ça entraîne la perte de la nationalité française. Quand Fantômas en descend froidement Troyes, il crie « Hourra !» Trois agents sur le sol. « Hourra !» Alors, ce qui est curieux, c'est qu'Aragon écrira « Hourra l'Oural » dans lequel il écrira « Descendez les flics, camarades, descendez les flics, procès d'Aragon ». Et je ne sais pas si, écrivant cela, Aragon se souvient de Fantômas. En tout cas, hurra. Oui. Mais c'est étonnant, hurra, hein, qu'ils reprennent hurra pour dire descendez les flics, c'est exactement ce que dit Fantômas. Alors, moi je dirais que Souvestre et Alain ont été par moments surréalistes sans le savoir. Vraiment. Vraiment. Et que ils font partie d'un ensemble qu'on pourrait appeler pré-surréaliste. Parce que le surréalisme, si révolutionnaire et nouveau qu'il a été, n'est pas tombé du ciel comme ça, sans précédent, sans préparation. Donc il y a eu Fantômas, il y a eu le Grand Guignol, il y a eu la publicité dans la presse, qui est souvent surréaliste, parce que la main coupée, on en trouve dans la publicité, des mains coupées. Les concours de trucage photographique dans la presse. Donc tout ça fait partie d'un climat pré-surréaliste, mais il est évident que Fantômas y tient sa place et son rôle, alors que, vraiment, pour ce qui est de l'écriture proprement dite, ça tombe des mains. C'est ça, moi, le point de départ de ma réflexion. Pourquoi est-ce qu'Apollinaire, pourquoi est-ce que tous les écrivains que tu as cités, pourquoi est-ce qu'ils ont aimé Fantômas? C'est ça que j'ai essayé de comprendre. Surtout le rêve. Pour moi, le rêve.